Bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre. Monnaie Libre aujourd'hui spécial d'Unitaire et rencontre des monnaies libres. 7e rencontre des monnaies libres en juin. Alors d'Unitaire, c'est le nouveau nom du logiciel Ucoin. Donc c'est maintenant donc d'Unitaire. On est avec son fondateur Cédric au téléphone. Bonjour Cédric.
Bonjour Stéphane.
Alors pourquoi d'abord ce changement de nom? Pourquoi d'Unitaire?
Pourquoi ce changement de nom? Alors, ça fait longtemps que ça traîne déjà. Ucoin, j'avais pris ce nom-là un peu par dépit. Je voulais la notion de pièce, ça rappelait un peu la Bitcoin sur laquelle on est basé. Et puis, vous faites la monnaie. Mais bon, c'est un peu dépassé tout ça. Et puis, depuis le temps est passé, ça fait quand même quasiment 3 ans qu'on a lancé le projet. Et puis, un peu de maturité, on a trouvé d'autres raisons de renommer.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, d'Unitaire. Alors, d'Unitaire ou d'Uniter, hein, ça dépend de la façon dont on veut le prononcer. En anglais, d'Uniter. Et puis en français, d'Unitaire, j'aime bien. Ouais, c'est penser un peu à Jupiter. Mais alors, la raison, c'est en anglais plutôt, pour dividende Uniter. Parce que c'est le logiciel qui fait l'unité de dividende, tout simplement. D'autres y ont vu par exemple la dune, parce que le logo associé c'est la dune.
Oui.
Parce que il y a le mot dune dedans et donc d'autres y voient la dune itérative si tu veux. Puisque effectivement la dune dans notre cas représente la monnaie, le flux de monnaie, le vent qui apporte le sable sur la dune, mais la dune est immuable, la dune est perpétuellement là mais jamais la même. Et donc la dune itérative, ça marche aussi.
Alors pourquoi la dune, tu dis, est perpétuellement là, mais n'est jamais la même? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que, une dune de sable, c'est une dune donc, qui est faite de sable. On voit bien la forme d'une dune, c'est une entité qu'on perçoit, mais si on regarde plus précisément, c'est des grains de sable qu'elle est constituée. Mais en fait, c'est jamais les mêmes, puisque les dunes, ça bouge, d'une part, spatialement, vraiment. Du fait du vent qui emporte des grains de sable et en apporte de nouveaux. Nous, c'est un lien avec la monnaie libre où il y a perpétuellement de nouvelles unités qui arrivent dans l'économie, et pour autant, il y a toujours une masse monétaire stable, comme la dune.
Ouais, c'est un peu ça. Donc effectivement, c'est la stabilité dans le flux, et à la fois, c'est vrai pour la monnaie, puis c'est vrai pour les hommes.
Tout à fait.
On vit un certain temps, puis on est remplacé. Et donc, ce d'Unitaire, donc voilà, avec ce logo qui est une dune, alors on peut le trouver tout ça sur le site, bien sûr, d'Unitaire.org désormais. Hein, c'est ça, hein, .org.
Le problème, c'est que le changement de nom, c'est assez compliqué. Alors, on a changé tous les noms de domaine. Voilà, le site, c'est d'Unitaire.org, donc d-u-n-i-t-e-r.org. Ça redirige vers le blog principal, mais bon, selon votre langue, vous tomberez sur la version française ou anglaise. Voilà, le nom des projets GitHub va changer, tout ça. On a un nouveau chat, qui est accessible quand vous allez sur le blog, sur la partie contact, il y a les informations. Le nom du forum aussi a changé, tout ça. C'est un travail assez conséquent.
Voilà, donc d'Unitaire, ce logiciel de monnaie libre de pair à pair, P2P, donc assez compliqué, puisqu'il y a une blockchain, il y a une toile de confiance. Alors, où en est le projet? Je crois qu'il a franchi des caps très importants cette année qui le rendent maintenant, on peut dire, quasiment totalement opérationnel.
Nous avançons pas trop non plus, mais c'est vrai que là, on avait lancé une monnaie de test qui s'appelait le Metabronzouf. On a arrêté fin janvier, au bout d'un an, un an de test. Alors, un an de test, d'ailleurs, avec un taux de création monétaire équivalent à un an en une journée, il y a autant de monnaie créée en une seule journée qu'en un an dans une vraie monnaie. Et donc, on a simulé, 360 ans. On a pu constater pas mal de choses. On a pas mal de personnes aussi qui sont passées dessus. Je reprends les chiffres, mais je crois qu'on a, on a 137 identités qui ont été publiées. Pour ceux qui veulent plus de détails sur le Metabronzouf, vous avez sur le blog, il y a un article consacré. Donc on a eu pas, pas mal de retours et puis on a identifié des points qui peut-être nous gêneraient pour une version de production, on va dire, et qui était important de réaliser tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a changé de protocole. Depuis le Metabrosouf, on a créé une nouvelle version du logiciel. Et donc c'est à cette occasion qu'on a appelé le projet d'Unitaire, parce que voilà, c'est un changement important, changement de nom, voilà, faut oublier YouCoin, ça n'existe plus. Maintenant c'est d'Unitaire et qui implémente le protocole version 0.2.
Ouais, 0.2. Alors, qui change quoi exactement ce protocole? C'est avant tout des aspects techniques, hein, c'est ça?
Alors, c'est principalement des aspects techniques. Plusieurs choses. Déjà, au niveau des transactions, il y a une fonctionnalité qui nous avait été soumise assez tôt et qui est très importante, en fait, mine de rien, c'est de pouvoir échanger entre deux monnaies, par exemple deux monnaies libres qui sont réalisées avec l'Unitaire. Eh bien, il serait possible de faire, d'échanger la monnaie A contre la monnaie B entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance, et donc sans tiers de confiance, de façon automatisée. Ça, c'est totalement dépendant du protocole et des fonctions qu'il implémente. Et donc, Bitcoin permet déjà de le faire, la plupart des altcoins aussi peuvent le faire. Et donc, on pourrait échanger une monnaie libre contre une monnaie non libre ou inversement. Voilà, de façon sentir de confiance, voilà, et c'était quelque chose d'assez important pour nous. Donc ça, voilà, ça c'est réalisé, c'est testé en termes de code, si tu veux. Maintenant il faudra réaliser des tests réels avec d'autres monnaies si on veut, mais bon, on est sûr de notre coup. Ça c'était une première fonction, mais peut-être le plus important, c'est les règles de la toile de confiance, voilà.
Ah d'accord, alors qu'est-ce qui change dans les règles de la toile de confiance alors?
Bah, par exemple, ce qu'on souhaitait, c'est que, donc on avait évoqué ça pendant les rencontres des monnaies libres 5 et 6. Voilà, c'est l'occasion, à chaque fois on parle beaucoup, on identifie des problématiques, et notamment de pouvoir émettre des certifications. On voulait que, voilà, il y a un certain coût, qu'on puisse pas émettre, voilà, certifier des personnes à la volée 40 000 comme un ordinateur saurait le faire. On voulait par exemple qu'il y ait un délai dans la certification. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi Cédric, te certifie toi, eh bien, si ensuite je veux certifier une autre personne, eh bien, il faudra par exemple que j'attende un délai de 3 jours, une semaine, et je ne pourrais pas le faire avant. Voilà, ce qui permet de donner un certain poids à la certification et d'éviter, voilà, des attaques du réseau, de la toile.
Voilà, donc en fait, il y a une réduction des possibilités d'attaque, ou en tout cas une augmentation des possibilités de contrôle, ce qui est un peu la même chose, par le fait qu'effectivement il y a une temporalité forte quant à la possibilité de signer des nouveaux arrivants. On peut pas les signer comme ça à la volée, comme tu disais, il faut par exemple attendre un mois, deux mois, enfin c'est un paramètre à donner, mais c'est un paramètre temporel, et donc c'est assez lent finalement pour intégrer des nouveaux, quoi.
Oui, bah c'est ça, parce que c'est vrai qu'il faut différencier le système technique. Voilà, Unitaire, lui, voilà, c'est un logiciel. Il peut lier à la vitesse d'un ordinateur, une fréquence bien plus élevée que celle du cerveau humain, si on veut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la toile de confiance. Elle existe selon la fréquence humaine, selon le temps humain. Et donc, c'est celui-là qu'on doit prendre en compte. Et donc, notamment, les règles doivent refléter cet état de fait. Voilà, des personnes, combien est-ce qu'on peut en rencontrer dans sa vie, peut-être beaucoup, mais combien on reconnaît aujourd'hui, déjà il n'y en a pas tant que ça. On peut dire, je crois qu'on avait vu un article là-dessus, donc des limites hautes à 150 personnes connues, voilà, en ce moment, comment dire, que je reconnais et que je sais qu'elles sont à peu près des personnes que je pense être, notamment leur nom, prénom, et puis voilà, la personne que j'ai identifiée, si tu veux. Mm-hmm. Et donc, voilà, il y a une limite haute, et puis on n'en rencontre pas tant que ça, finalement, dans une année. Et donc, voilà, il faut pouvoir refléter cet état de fait, d'autant que c'est une protection pour nous, ensuite.
Oui, alors, il y a un deuxième aspect, de plus général, il y a effectivement cette limite haute de 150, ce qui fait que c'est une limite haute, tout le monde n'a pas forcément, d'ailleurs, en plus, une connaissance de 150 personnes dans son entourage. Ça va dépendre des personnes, bien sûr, ça va dépendre des liens sociaux qu'on a, mais il y a aussi une limite plus basse qui est intéressante, c'est la limite 12, en fait. Il y a un article récent d'ailleurs qui est passé sur Internet Actu, hein, de Jean-Philippe Cornu qui parle de ces études-là. Et en gros, alors, l'idée c'est qu'à 12 personnes, on a une très bonne synergie entre les personnes, pour faire simple. Et qu'au-delà de 12, on ne gagne pas beaucoup, c'est-à-dire on gagne quasiment rien en fait. Voilà, c'est qu'arrivé à 150 que là on peut passer un cap nouveau. C'est-à-dire qu'il y a 7, ou, d'ailleurs 150 c'est à peu près 12 fois 12, hein, 144. Hein, voilà. Donc il y a cette notion de 12 là, qui est intéressante à savoir aussi, c'est que voilà, des groupes de 12 sont assez soudés et travaillent bien ensemble et qu'au-delà on ne gagne pas forcément beaucoup. Il faut arriver à 150 pour gagner un degré de participation fort supplémentaire. Voilà, bon, ça c'est des notions de toile de confiance qui sont intéressantes, on ne peut pas toutes les prendre en compte et les connaître, en fait c'est bien d'avoir quelques notions sur ces effets de taille, parce que alors évidemment, le problème du monnaie libre c'est aussi un problème de taille. Hein.
Oui. C'est, nous, avec le logiciel actuellement, selon les règles qu'on utilise, une monnaie libre peut être utilisée par un maximum, je sais pas, de 200 personnes, comme de 1 million, quelques millions, mais ça va être difficile d'aller beaucoup plus haut, déjà en termes de, comment dire, de calcul technique, puisqu'il y a quand même des calculs à faire pour la toile, parce qu'il y a un diamètre maximum dans la toile de confiance, et qui est un paramètre, et en fonction de ce diamètre maximum, eh bien les calculs changent, et notamment ils sont exponentiels. Donc là, avoir un diamètre de 12, 14, 15 ou 20, c'est pas possible. Et les ordinateurs personnels ne vont pas suivre. Donc voilà, il y a une limite aussi maximum technique aujourd'hui.
Voilà, bon, on sait aussi que les êtres humains sur Terre sont connectés les uns avec les autres avec une distance d'à peu près 4 en fait. Hein. Donc voilà, 4 c'est pas non plus. On n'a pas besoin d'avoir une très grande distance. Bon, là c'est une connexion faible, hein, c'est quand même une idée de l'ordre de grandeur qui fait que. Le fait que je connaisse quelqu'un, qui connaisse quelqu'un, qui connaisse, etc., on peut se limiter à 4 de connaissances, disons, simples, dans l'espace réel, physique, pour suffire à toucher tous les êtres humains présents aujourd'hui en 2016. Donc, une connexion plus forte avec une bonne connaissance des personnes, c'est sans doute plus que 4, mais c'est pas forcément beaucoup, beaucoup plus, quoi. Voilà, ça reste des choses assez petites et à taille humaine, finalement. Alors, donc, là, tu nous as parlé de cette évolution du protocole d'Unitaire, des améliorations, essentiellement, hein, qui le font passer, donc, à ce protocole 0.2. Il y a une nouvelle monnaie de test qui a été lancée. Il est important toujours d'avoir une monnaie de test quand on fait un développement comme ça, on fait toujours des tests en informatique, Cédric.
Ah bah oui, parce que là, ça nous permet de valider nos développements avant de les mettre en production. C'est un process assez courant en informatique. Après, nous, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de production. Donc, tout va en test, mais c'est très utile parce que là, on essuie les principaux plâtres. Donc, c'est important. C'est très important. Et là, on a une monnaie qui s'appelle le testnet.
Voilà. Testnet. On peut se dire aussi que le fait que ce soit la deuxième monnaie en test... Évidemment, plus il y aura de monnaies en test qui se succèdent, plus on peut se dire qu'une monnaie en production va pouvoir émerger. Un jour ou l'autre, il y a bien une communauté qui va s'approprier le logiciel pour lancer une monnaie, disons, à taille conséquente, quoi, je veux dire, enfin, à taille réelle en tout cas, voilà, avec des paramètres acceptables.
Oui, bah, après, c'est sûr que là, dès aujourd'hui, on a vraiment écrémé beaucoup de bugs, on va dire, de jeunesse, quoi, par exemple, ça fait une semaine sur Testnet, moi je n'interviens plus en fait, hein, ça roule tout seul, les gens s'échangent de la monnaie, les gens s'identifient les uns les autres, voilà, ça roule, hein, déjà.
Alors ce qui est amusant, c'est que cette monnaie de test, s'il y avait des utilisateurs en nombre qui venaient l'adopter, tu pourrais plus, même toi, tu pourrais plus l'arrêter, quoi, elle pourrait tourner.
Ah bah c'est ça, alors par exemple, là quand je parlais du Metabrousouf, dans l'article, je dis... on va arrêter la monnaie, mais je suis aussi honnête dans l'article en disant, mais voilà, je prends la place d'un utilisateur, mais je croyais que c'était du P2P. Comment est-ce que tu peux arrêter la monnaie? On dirait que t'as un pouvoir de vie ou de mort centralisé, quoi. Oui. Mais en fait, voilà, je fais un petit commentaire en disant, bon, en fait, je peux pas vraiment l'arrêter. C'est juste que moi, je vais laisser mon nœud tourner. Si ça fonctionne, il va continuer à tourner, mais c'est ça, c'est du P2P. Il n'y a pas de serveur central qui contrôlerait toute la monnaie, et donc je ne peux pas l'arrêter. Mais bon, voilà, on était une petite communauté, donc on s'est dit, on va arrêter là, on va,
ouais,
on va lancer une autre monnaie, et puis c'est ceci. Et là, par exemple, TestNet, oui, si c'est adopté, je pourrais rien y faire. Elle va tourner sans moi.
Alors, ceci dit, elle est vraiment pas utilisable, hein, disons, en situation réelle, puisqu'elle est aussi à 10% par jour, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En termes techniques, qu'elle pourrait continuer à perdurer sans moi, mais en termes monétaires, bon, on voit mal l'utilisation d'une monnaie comme ça. Ouais.
Voilà, donc en tout cas, bon, voilà, deuxième monnaie de test, et avec toute une grande partie des bugs de jeunesse, comme tu disais, qui ont été résolus, un peu nettoyés. Donc ça, c'est très bien, on sent que ce logiciel tend vers une très bonne maturité. Alors, on va parler d'un deuxième point important dans la vie d'un logiciel, c'est bien sûr ses clients, c'est-à-dire, parce que, alors surtout un logiciel comme ça, qui a deux dimensions, je veux dire, une partie serveur, une partie de gestion serveur, et puis une partie de client. C'est-à-dire on peut aussi accéder à la monnaie sans forcément faire tourner un serveur, même si bon, c'est sans doute mieux que chacun fasse au plus tourner un serveur. Plus il y en a, plus la monnaie sera bien sûr solide. Mais on peut aussi accéder directement via des clients. Alors, on a maintenant trois clients opérationnels, alors, dont un qui est vraiment, moi je trouve... Enfin, même tous, ils sont très bien, en fait. Hein. Bon, un qui est vraiment un client pro, hein, c'est Shakia. Et puis, un qui fait un peu son arrivée, qui montre des qualités vraiment superbes aussi, qui est une interface web, en fait. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une interface web? C'est un serveur web? Comment ça fonctionne? Ça s'appelle Cesium. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un outsider qui est arrivé un peu en plein cours de route, voilà, un peu par accident. On a commencé à faire un petit prototype, voilà, et puis bah, il se trouve que... Bah, a été repris et puis par un des contributeurs qui s'appelle donc Zekima, Imanila, et qui s'éclate en fait à développer ce truc là et maintenant bah voilà, bah, ça fonctionne quoi, c'est un équivalent de Giniter App, parce que maintenant faut l'appeler comme ça, c'est l'ancien, enfin c'est le nouveau nom de la version Android, le client Yukon Apps, donc maintenant il s'appelle Giniter Apps, et bah Cesium c'est un équivalent. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui était fait à la base pour tourner sur des téléphones mobiles, des smartphones. Et tablettes aussi, ça fonctionne. Mais voilà, comme les technologies impliquées, c'est uniquement du web, et bah, ça fonctionne dans le navigateur de tout un chacun. Et donc là, bah, si vous allez sur cesium.uniter.org, bien vous pouvez accéder à l'application immédiatement, sans attendre, et puis utiliser de la monnaie si on vous en a envoyé.
Alors ça veut dire qu'avec cette application, on peut s'inscrire à la monnaie, on peut se faire signer par les autres membres et à son tour signer d'autres membres et envoyer ou recevoir des transactions. On est d'accord?
Ben oui, on peut tout faire. On peut tout faire comme si on avait installé Sakia sur son bureau. Mais là, voilà, c'est une version dans un navigateur.
Mais en fait, tout est sauvegardé en local, bien sûr, non pas sur le serveur distant.
Alors même, en fait, aujourd'hui, il fonctionne... sans aucune sauvegarde, en fait il se rappelle de rien, c'est juste le temps de la navigation, au moment où on arrive en fait sur l'application, on se connecte avec ses identifiants personnels secrets, et qui génèrent donc le trousseau de clés, et à partir de là en fait, une fois qu'on a son trousseau, le logiciel Cesium va aller télécharger dans la blockchain toutes les informations qui concernent la clé, puisque pour rappel, toutes les données sont publiques dans la blockchain des visiteurs.
Ouais. Ouais. Mais dans toutes les blockchains, elles sont publiques. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est en l'occurrence, oui, on reste public. Non, parce qu'il y en a qui pourraient tenter de chiffrer les données à l'intérieur, alors que là, elles ne sont pas chiffrées. On pourrait d'ailleurs les chiffrer, mais par défaut, non.
Oui, par défaut, non, mais on pourrait les chiffrer par excès.
Voilà.
Alors, donc.
Les données sont jamais stockées, en fait.
Ouais. Alors il y a Shakia aussi 0.
Je peux faire un point sur les numéros de version. C'est pas compliqué en fait puisqu'on utilise le préfixe 0.12 pour parler de la nouvelle version du protocole est unitaire. Donc la version de Shakia aujourd'hui c'est la 0.20.
Ouais.
Pareil pour unitaire en fait on appelle 0.20. Et c'est des versions encore de développement pour l'instant pour Shakia. On peut l'utiliser pour rejoindre la monnaie de test, d'ailleurs, ce que je fais tous les jours. Mais on est encore dans le développement là.
Oui, alors, Sakia, qui lui est un client qu'on installe sur sa machine, donc qui n'est pas dans un navigateur, et qui est par contre plus riche en termes de fonctionnalités, puisqu'on peut voir la toile de confiance, on peut naviguer dans la toile aussi, on peut voir les informations sur la monnaie. Il y a un explorateur aussi qui a été mis au point, qu'on peut voir la toile à un pas de distance, à deux pas de distance de soi, à trois pas.
Oui, c'est ça, c'est une toile centrée sur soi et on peut voir les personnes à la distance de soi.
Ouais. Voilà, donc on peut choisir le pas, c'est assez riche et bien efficace et voilà, c'est un très beau client aussi. Voilà, donc des clients qui sont quand même bien opérationnels et qui fonctionnent très bien, donc on peut installer. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui si on est utilisateur, bon, qu'on ne connaît pas vraiment bien l'informatique, on connaît un peu quand même, on sait installer des logiciels, on sait naviguer sur Internet. Comment on fait si on veut participer au test? Il faut faire quoi exactement?
Alors pour ça, en fait, on a fait un tutoriel en fait pour rejoindre la monnaie de test. D'ailleurs, il est accessible par le site web, là, sur tuniteur.org. Quand on arrive sur le site, en fait, il y a un petit bouton, un petit lien, essayer la monnaie de test. Voilà, qui redirige vers un tutoriel, voilà, un processus un détaillé qui décrit comment télécharger le logiciel. Alors aujourd'hui, il est fait uniquement pour Sakia, puisque historiquement, c'est le client qui nous a aidé en premier à développer une monnaie de test. Mais on pourrait la mettre à jour pour intégrer Cesium. Faut faire tout un tutoriel quand même. Hein, c'est comme ça qu'on rejoint la monnaie de test, tout simplement. À un moment, vous allez arriver, on va vous demander de vous créer identité sur le forum. Là, vous faites juste un post pour vous présenter et comme ça, on peut savoir si vous êtes avec un minimum de confiance que vous êtes une personne unique dans la monnaie. Et puis à ce moment-là, les personnes arrivent et vous certifient, puis vous laissent un petit message pour vous le dire d'ailleurs. Donc voilà, c'est assez interactif la monnaie de test.
D'accord, oui. Et c'est important pour s'approprier les concepts puisqu'on va retrouver dans tous ces logiciels, la possibilité notamment de changer de référentiel, c'est-à-dire voir la monnaie de façon différente, en quantité de base, en unité, en relatif, c'est-à-dire en nombre de dividendes, à compte nul, à somme nulle, si on veut regarder son compte, si on est au-dessus de zéro ou en dessous de zéro, on peut aussi changer de référentiel. Voilà, donc plusieurs façons d'appliquer le principe de relativité au sein de la monnaie, qui est une autre façon de le pratiquer. Et qui permet voilà, de relativiser là aussi ce qu'est une monnaie et comment elle fonctionne. Alors, quelles sont les prochaines étapes du développement? Est-ce qu'il y a des points de développement que tu as prévus pour les prochains mois qui sont importants à mettre dans ta to-do list?
Oui, ma to-do list aussi, comme disent certains. Eh bien, actuellement, en fait, on a vraiment bien avancé. Hein. Il y a plus tellement de points, on va dire, fondamentaux à développer. Alors après, sinon, ça va commencer à devenir un peu cosmétique, là. C'est-à-dire que le cœur est là, le protocole est là. Bon, il y a quelques petits ajustements à faire, mais c'est pas grand-chose. Et donc là, maintenant, on arrive dans une phase de maturité. Où là, on va dire plutôt le code, on va essayer de le simplifier, de le rendre le plus accessible possible à d'autres contributeurs, histoire que déjà je ne sois plus seul dessus. Enfin, c'est déjà plus le cas en fait. Il y a déjà quelques personnes qui arrivent là, qui arrivent comme une fleur et puis qui me déposent du code supplémentaire. Enfin, c'est vraiment génial. Mais il faut quand même que je fasse un effort pour rendre le code le plus accessible possible. Et notamment parce que ça nous évite les bugs. Voilà, un code qui est difficile à lire, qu'on comprend pas très bien, qui est un peu obscur, c'est là que les bugs peuvent se nicher. Donc oui. Voilà, moi j'ai plus axé mes contributions sur la transmission en fait du code à la communauté.
D'accord, donc ça c'est un point qu'on va creuser un peu puisqu'on va parler dans la deuxième partie de l'émission des rencontres des monnaies libres, 7e édition importante où justement d'unitaire va être décortiqué pour les informaticiens. Alors ça c'est la partie informatique, on parlera un peu aussi des autres journées consacrées aux débutants sur le sujet qui veulent rejoindre un peu le principe et essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Bon, alors si tu veux bien, avant de parler sur cette deuxième partie de ce qui va être vu au 7e rencontre des monnaies libres sur d'unitaire, je te propose de faire une pause musicale.
Ben oui,
alors tu sais comment sont les musiques sur monnaie libre?
Ben tendance à savoir, oui. Elles sont libres.
Elles sont libres, là, exactement. Donc, une musique libre pour nous accompagner dans cette pause musicale. On se retrouve juste après, donc, avec Cédric Sedjik, donc, développeur d'Uniter, le logiciel de monnaie libre P2P qui devient donc mature. À tout de suite après la pause musicale. Thank you. Nous voici donc de retour dans Monnaie Libre, toujours avec Cedjik, hein, développeur d'Unitaire, le nouveau nom du logiciel P2P de Monnaie Libre. D'Unitaire qui passe en phase 0.2, donc a gagné vraiment un cap important. On l'a vu dans la première partie, la plus grande partie des bugs qui ont été repérés pendant la première monnaie de test Metabrosu, qui a duré quasiment 10 mois, je crois d'ailleurs.
Un an,
voilà, 12 mois, donc voilà, et qui a simulé près de 360 ans, donc presque un tour de cercle, hein. Si chaque année faisait un degré, ça ferait un tour complet. Voilà, donc une belle preuve de expérimentale, une monnaie qui a tourné, avec quelques petites corrections, bien sûr, à faire sur toujours, hein, en première monnaie de test. Et là, une deuxième monnaie de test qui a été lancée sur le protocole 0.2, donc il y a améliorer un certain nombre de points. Test net, on en a parlé. On a parlé des clients qui sont aussi maintenant bien matures, avec un nouveau venu. Donc il y a les clients historiques très importants, Sakya et d'Unitaire Apps. Et puis donc Cesium, qui est un client sous format web, en fait, qui tourne en local, mais qui est en format web, que vous pouvez lancer dans votre navigateur, et qui est tout à fait remarquable en termes de fonctionnalité. Alors, donc on l'a dit avant la pause, c'est dit que d'Unitaire donc sera présent, hein, comme chaque fois, bien sûr, aux rencontres des monnaies libres. C'est sans doute le logiciel le plus abouti actuellement dans le monde sur le principe d'une monnaie libre. Et donc, alors, il y a deux journées consacrées à d'Unitaire, hein, qui vont parler à la fois de son cœur, mais aussi de ses clients. On l'a dit, Sakya, Cesium, d'Unitaire Apps, et puis voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas présenter un peu ça? Comment les autres contributeurs vont présenter ça? Sur ces deux journées qui auront lieu, je crois, les 2 et 3 juin, cette partie informatique, ça se présente comment?
Alors, ce que j'ai prévu de faire, moi, et puis même ce qu'on a prévu avec les contributeurs des clients, donc c'est le jeudi et le vendredi, c'est ça, le 2 et le 3, on va faire une première journée utilisation, principalement accès utilisation. Après, selon l'avancement de la journée, peut-être qu'on pourra un petit peu grappiller la deuxième partie. Mais là, voilà, la première partie, la première journée, c'est assez l'utilisation donc d'Unitaire. Alors principalement, dans un premier temps, les clients, pour s'inscrire à la monnaie de test, comprendre un peu le fonctionnement. Alors on va partir d'un point de vue utilisateur. Et ensuite, on va installer le logiciel d'Unitaire lui-même pour se faire peut-être notre petit réseau, notre petite monnaie des RML test. Et voilà. Et pour apprécier un peu le protocole aussi, puisque forcément, quand on va s'inscrire à la monnaie, ça implique un fonctionnement sous-jacent, notamment ça implique les certifications, les identités. Voilà, il va falloir expliquer tout ce vocabulaire et puis comprendre ensuite, quand on va installer le logiciel d'Unitaire, comment créer la monnaie et qu'est-ce que sont tous les paramètres de la monnaie. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense, même, d'expliquer tout ça. C'est pas forcément compliqué, mais faut avoir conscience de la mécanique, quoi.
Ouais,
donc là, c'est vraiment pour la première journée. Alors, tous ceux qui veulent utiliser, hein, qui sont un petit peu informaticiens quand même, parce que le but, c'est quand même de creuser le logiciel. Surtout pour faire un tremplin vers la deuxième journée. Donc voilà, c'est ce jour-là qu'il faut venir. Vous allez en apprendre beaucoup à ce moment-là.
Alors, oui, et puis bien sûr, on peut pas vraiment imaginer qu'une monnaie libre puisse tourner sans qu'il y ait suffisamment d'informaticiens qui s'occupent du cœur du logiciel, parce que évidemment, il subira toujours des modifications, des corrections, des améliorations, et qu'il faut toujours être attentif à son code et ne pas le laisser dormir, quoi.
Bah, en tout cas, une monnaie libre basée sur d'Unitaire, oui, c'est foutu, il faut des informaticiens, quoi.
Ouais.
Ah. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a, on l'a dit, hein, il y a toujours des bugs, hein. Notamment, on en a constaté pour le Metabrosu et Testnet, mais il y en aura toujours, hein. C'est une partie sans fin, et donc s'il n'y a pas d'informaticien pour corriger les bugs, mais même sans ça, on sait que des utilisateurs qui savent utiliser l'outil informatique et installer le logiciel, et puis comprendre pourquoi des fois ça marche, ça marche pas,
oui,
c'est important. Donc il faut des informaticiens, quoi qu'il arrive.
Oui, c'est être aussi un utilisateur capable de remonter des problèmes de fonctionnement, que ce soit des bugs ou des améliorations à faire, même ça, c'est très important.
Hein. Ah oui, tout à fait. Donc bah voilà, c'est typiquement la première journée qu'on va se sensibiliser à tout ça.
Alors il y a un aspect qu'on a peut-être pas dit dans la première partie, je viens d'y penser, et quand même qui est important, c'est que désormais, Dunitaire a aussi une interface graphique. Ça, c'est nouveau.
Oui, bah alors c'est bien, je vais pouvoir rebondir là-dessus. C'est vrai que je voulais le dire tout à l'heure quand on a parlé des clients. Mais oui, c'est ça, c'est que maintenant, Dunitaire a une interface graphique. C'est-à-dire que là, vous téléchargez le logiciel et puis c'est pas qu'un serveur. Alors d'ailleurs, le terme serveur est plus ou moins relatif. Hein. Je pense que c'est tout à fait le cas, parce qu'en fait, c'est pas forcément que vous installez le logiciel sur un serveur. C'est-à-dire qu'il a une fonction serveur. C'est-à-dire qu'il tourne, on pourrait ne pas le voir sur son bureau, on pourrait ne pas voir la fenêtre sur le bureau, il tourne, quoi. Et c'est en ça qu'on peut appeler ça un serveur. Là, aujourd'hui, Dunitaire a une interface graphique. Donc, vous le téléchargez, hop, vous le lancez, et donc, vous avez des écrans pour créer une monnaie, pour rejoindre une monnaie, et puis c'est des fonctionnalités plutôt serveur aujourd'hui justement. C'est-à-dire que c'est plus pour administrer son nœud, on appelle ça un nœud, en logiciel d'Unitaire, on peut voir notamment les autres paires du réseau qu'il a trouvé, on peut voir les transactions qui sont en attente de voir les transactions qui ont besoin d'être écrites dans la blockchain. On peut voir les certifications qui arrivent, les identités, enfin voilà, c'est vraiment le logiciel, le cœur, quoi. Mais il a déjà une interface graphique. Et alors, qu'est-ce qui différencie vraiment un serveur d'un client, et est-ce que c'est pas un peu la même chose? Enfin, c'est quoi cette histoire, quoi? Et ben, à terme, en fait, un client et un serveur, on va pas trop différencier. Parce qu'il y aura donc le client pourra intégrer le serveur, et le serveur pourra intégrer une interface graphique qui fait client. Voilà, à la fin, c'est la même chose. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préféreront installer le logiciel sur un vrai serveur, et pour le coup, n'auront pas besoin d'interface graphique, mais ça, c'est plutôt des informaticiens, on va dire, chevronnés, quoi.
Alors, on peut faire le parallèle, pour ceux qui connaissent et qui se posent des questions sur ce principe, avec le protocole BitTorrent. Si on connaît les clients BitTorrent, la plupart sont clients serveurs, c'est-à-dire que un client comme Cube BitTorrent ou un client comme ou même le serveur ou même le réseau qu'on appelle iDonkey, je crois c'est iDonkey avec Emule, hein, le client Emule, il fait aussi serveur, bien sûr. Tous ces clients font serveur sur ces réseaux P2P de partage de fichiers qui permettent donc de répartir les fichiers entre divers utilisateurs sans que ça soit centralisé, sont à la fois clients et serveurs, ils servent à la fois à faire les deux. Et pourtant, dernièrement, est apparue une application BitTorrent qui s'appelle Popcorn Time, et qui a peut-être même forqué depuis, etc., qui lui ne faisait que client, c'est-à-dire qu'il faisait que lire les fichiers sans les rapatrier en tant que serveur.
Hein ? Oui, mais bien sûr, s'il n'y a pas de serveur, ça ne marche pas. Enfin, il ne veut pas y avoir que des clients.
Voilà, il ne peut pas y avoir que des clients.
Il ne peut pas y avoir que des serveurs, parce que s'il n'y a pas de serveur, personne ne consomme les données.
Voilà, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour qu'il y ait des clients purs, il faut d'abord surtout qu'il y ait des serveurs. Les serveurs sont premiers et les clients viennent après. Mais voilà, donc c'est quand même deux fonctionnalités qu'on peut séparer et qui parfois se font au début de façon séparée puis qui convergent, ou inversement. Parfois elles sont faites au départ en étant groupées, puis on voit apparaître au fil du temps des séparations qui se font. Selon les usages, on veut pouvoir faire soit les deux, soit un seul. Voilà, donc ça, c'est intéressant à noter. Bon, c'est des subtilités d'informaticien, mais bon...
Oui, c'est ça, mais c'est important à noter quand même, parce que après, je voudrais pas qu'on vienne croire que Dunitaire est un truc centralisé avec un serveur central, ou alors est un logiciel qui ne peut pas être utilisé par tout un chacun. Mais c'est faux, parce qu'il suffit de lancer le logiciel, hein, c'est vraiment pas compliqué.
Ouais, il suffit de lancer le logiciel, c'est pas compliqué, on le laisse tourner et on participe du réseau, sans qu'il y ait de centre, la base de données étant partagée entre tout le monde. Alors oui. Ça c'était donc pour CRML7, cette partie donc, d'interface graphique importante aussi, je voulais noter, sur Dunitaire. Donc il va y avoir cette installation, on va pouvoir tester cette installation d'Unitaire, et tu dis que pour CRML7 tu prévois de carrément lancer une monnaie à l'occasion des rencontres sur qui va tourner 4 jours, quoi.
Bah oui, voilà, c'est ça, mais c'est vraiment facile à faire maintenant. Donc tout un chacun peut le faire, et puis d'ailleurs, il y en a qui ont expressément dit qu'ils le feraient et qu'ils veulent créer leur monnaie locale à eux, quoi. C'est pas grave, c'est pas un local. Attention, je dis pas monnaie locale au sens qu'on entend habituellement, je veux dire, c'est une monnaie qui sera que sur leur PC, quoi.
Oui.
Et c'est juste pour tester et pour constater que voilà, bah, effectivement, une monnaie libre peut se créer, et peut se créer aussi sans que les informaticiens soient là pour le faire, ils peuvent le faire eux-mêmes.
Voilà, ça peut se faire désormais soi-même, on peut lancer son réseau de monnaie libre, tout comme ben aujourd'hui on pourrait lancer son réseau de BitTorrent finalement, parce que BitTorrent c'est un réseau, mais on peut en faire plusieurs.
Bah oui, c'est ça, ben, je ne connais pas précisément le protocole, mais oui, de toute façon, tant que c'est du pair à pair, oui, tout le monde peut le faire.
Voilà, tout le monde peut le faire, et on peut créer des réseaux parallèles qui fonctionnent de la même façon, mais qui ne sont pas... qui sont pas forcément mélangés entre eux, hein, voilà. Donc, qui sont séparés tout en fonctionnant identiquement, de manière identique. Alors, donc ça va être très intéressant. Hein, on va pouvoir donc lancer sa monnaie libre. si chacun fait ça.
Il y a un utilisateur qui nous a dit qu'il voulait essayer de lancer une monnaie libre nuit debout, tu sais, bon,
c'est
tester.
Hein, ouais.
Mais voilà, il a dit, ouais, moi je veux essayer. Il n'avait pas peur, hein, pauvre pour les yeux, mais. Ben voilà, là c'est l'occasion d'apprendre à le faire.
On peut apprendre à le faire, voilà, exactement. Alors après, si on n'a pas des connaissances informatiques ou des informaticiens avec qui on travaille pour ensuite tenir à jour hein, son réseau, on pourra à terme avoir des soucis de gestion. Hein, donc il faut faire un peu être prudent par rapport à ça, à moyen ou long terme, mais à court terme, et pour tester, pour se lancer, c'est tout à fait jouable. Et c'est comme ça qu'il faut démarrer. D'ailleurs, souvent, on apprend... L'informatique est peut-être une des sciences où la... Où finalement la pratique est plus importante que l'aspect théorique. Hein.
Bah oui, en tout cas, oui, un aspect vraiment prépondérant, c'est clair.
Voilà. Faut pas avoir peur de se tromper quand on fait l'informatique. Et c'est justement en se trompant, en faisant des tests, etc., qu'on apprend le mieux comment fonctionnent les logiciels et comment fonctionnent les machines. Alors l'intérêt aussi de l'informatique, c'est qu'il n'y a personne pour vérifier à côté de vous si vous faites des bêtises ou pas. Hein. Vous pouvez faire des erreurs et les réparer tout seul.
Ouais, bah ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être un des aspects qui justement fait que bah voilà, on peut travailler un peu seul dans son coin si on veut pour apprendre. Voilà, on n'est pas soumis au regard des autres ou d'un professeur. Voilà, on peut faire son éducation d'informaticien tranquillement, quoi.
Voilà, éducation informatique personnalisée. Alors donc, alors ça c'est sur l'aspect d'unitaire. Alors on va aussi travailler, tu disais, sur les clients aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors après. Moi, c'est ce que j'ai prévu donc pour le premier jour. Donc, une présentation. Il y a quand même une présentation des clients, mais d'utilisation. Et en fait, le lendemain, donc le deuxième jour, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir initier des personnes au développement. Initier des personnes au développement parce que voilà, on peut pas rester éternellement les seuls à travailler dessus, parce que déjà, bah, c'est un travail, c'est important. Et puis, pour l'instant, moi, il n'existe pas de monnaie libre, donc on est été contraint par la monnaie euro à travailler pour ceux qui émettent l'euro. Donc voilà, on n'est pas à 100% dessus, et si on veut que le logiciel évolue suffisamment vite, et ben il faut d'autres contributeurs. Et puis, notamment, on reçoit régulièrement des demandes de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations, mais ce qu'on aimerait pouvoir dire après, c'est bah, oui, écoutez, faites-le, tout simplement, et puis comme ça, il n'y a pas de problème, tout est fait tout de suite. Mais pour ça, il faut absolument qu'il y ait un moyen de comprendre comment effectivement coder la fonctionnalité ou corriger le bug. Donc c'est ça qu'on vise à faire le vendredi, apprendre à coder dans nos logiciels respectifs, en installant les outils de développement, tout ça. On va présenter un peu comment fonctionnent les logiciels dans le cœur, et puis après leur donner vraiment toute la méthode, le processus pour arriver donc du moment de leur idée à la réalisation concrète de la fonctionnalité.
Voilà, donc voilà, deux journées donc vraiment dédiées à fond pour les informaticiens avec la possibilité de s'immerger vraiment dans le projet. Voilà, si vous êtes un peu informaticien ou même beaucoup et que vous voulez, ça vous intéresse de travailler sur une monnaie libre, eh bien c'est l'occasion. Attention, c'est que tous les 6 mois, les rencontres des monnaies libres, c'est la 7e édition. La huitième est prévue pour la fin de l'année à Toulouse. On n'a pas encore les dates pour la huitième et c'est que tous les 6 mois. Donc évidemment, si vous ratez cette occasion à Laval du 2 au 5 juin, eh bien, il faudra attendre 6 mois pour avoir une nouvelle rencontre. Alors on peut toujours après travailler sur le net hein, depuis chez soi, mais les rencontres c'est quand même très riche. Hein. On se rend compte à chaque fois qu'on progresse très très rapidement sur ces 4 jours hein, en termes d'avancée, de réflexion et de mise au point. Hein.
Oui, l'accélération, elle est phénoménale lors des RML.
Oui, parce que parfois, justement, les 6 mois permettent de bien mûrir les points, de bien les comprendre, de bien les travailler, ce qui fait que lors de ces rencontres, il y a une accélération d'échanges d'informations qui sont en général de très haute qualité, parce qu'il y a une grosse réflexion en amont. Donc je pense que c'est un bon rythme, il ne faut pas faire que ce soit trop court, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. 2 par an, je crois que c'est vraiment un bon rythme. Alors, il y a une troisième journée ensuite, alors où là, il n'y aura pas vraiment d'informatique, voire pas du tout. Il y a un jauge economicus, ça c'est vraiment pour les débutants qui découvrent la notion de monnaie libre et qui veulent essayer de comprendre en quoi la monnaie libre change quelque chose par rapport à d'autres types de monnaie. Découvrir que déjà, il peut y avoir plusieurs types de monnaie et que selon ce qu'on joue comme monnaie, justement, puisqu'un jeu, eh bien, on aura un résultat différent. Donc voilà, si vous vraiment vous découvrez ça, il faut jouer à ce jeu parce que c'est une façon d'aborder le problème direct, rapide et extrêmement efficace pour prendre conscience de la différence des codes monétaires sur notre pratique et sur la pratique économique et sur le résultat, hein, puisqu'on a un compte rendu sur le résultat. Alors en parallèle, il y a un atelier, donc je peux le dire, parce que c'est moi qui vais l'animer, sur des approfondissements sur la théorie relative de la monnaie, où il y aura 2 modules. Il y a un module que j'ai appelé Galilée, pour faire un hommage à Galilée, puis un autre pour faire un hommage à Yolande Bresson, et qui s'appelle donc le module Yolande Bresson. Alors, module Galilée, c'est un peu ou prou le module qu'avaient déjà passé les premiers qui ont passé cet atelier d'approfondissement de la théorie relative de la monnaie au RML 6. Donc, ils n'étaient pas très nombreux, je crois que vous étiez 4. Hein.
C'est ça,
voilà, donc ces 4-là, s'ils sont là, pourront passer le module Yolande Bresson. et sinon, tous les autres, il faudra qu'ils passent par le module Galilée, parce que voilà, il est quand même assez touffu, et il faut quand même passer par là, avant d'aller plus haut. Et en gros, bon, avec l'aide d'un tableur, à l'aide de données économiques qu'on va aller chercher, et une série d'exercices à faire toute la journée, qui sont assez denses, hein, pour les finir dans la journée, il faut quand même... Il faut avoir un rythme soutenu, et bon, l'idée c'est avec des binômes, on va travailler en binôme, c'est quand même mieux. Mais avec un tableur, il faut un tableur, il faut travailler là-dessus, et puis moi je suis là aussi pour aider à s'accélérer. Et là ça permet d'approfondir la notion de monnaie libre, de façon beaucoup plus, je dirais, comptable, de façon beaucoup plus directe, profonde. Il est nécessaire d'avoir d'abord joué aux jeux Economicus avant de passer ce premier module. Et il faut passer le module Galilée ensuite aussi pour passer au module Yolande Bresson, qui lui-même sera suivi d'un autre module, mais qui aura lieu sans doute bien plus tard, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de gens formés aux 2 modules précédents pour attaquer des choses plus compliquées. Donc ça, c'est pour le 3e jour. Donc voilà, donc approfondissement d'un côté de la compréhension, et puis jeu découverte avec Géconomicus. Et alors je crois que le 3e jour, on revient à d'Unitaire, hein, puisque le 3e jour est consacré, encore une fois, à d'Unitaire. Hein.
Oui, on n'arrête pas. Mais là, c'est, on va dire, un peu comme la première journée, pour utiliser voilà, le logiciel, ce sera davantage, je pense, accès client. C'est-à-dire qu'on va utiliser Sakia, on va utiliser Stadium, Twitter Apps, pour que des personnes rejoignent une monnaie. Notamment Testnet, à mon avis, où on pourrait essayer la monnaie RML7, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser Testnet, parce que elle a quand même vocation à durer un peu plus longtemps. À la MEL7, moi je vais la laisser tomber dès le lendemain, hein. C'était juste pour tester.
Ah, peut-être que la monnaie qu'on va créer, qui va être créée au RML7 va prendre le pas sur Testnet.
Bah, je sais pas. Je n'en sais rien. Si ça se trouve, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va décider de la poursuivre et je ne pourrai rien y faire. Hein. Donc voilà. C'est peut-être que la monnaie RML7 va suivre. Alors on peut garder les 2 monnaies aussi en parallèle, hein, il n'y a pas de problème.
Oui, bien sûr, mais ça peut être pas mal aussi d'avoir une monnaie de test RML7, puis après une monnaie de test RML8, ça permettrait que des versions comme ça de test s'initialisent lors des rencontres aussi, c'est pas mal.
Oui, ça peut être pas mal. Après, il y a un danger, c'est que si jamais on met des paramètres de création monétaire de production, on va dire, et le danger, c'est que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que les utilisateurs disent, bah, c'est bon, on a notre monnaie, ça fonctionne, allez, basta, Elle dit, c'est bon, on a une monnaie libre, et puis voilà. Mais bon, et pour peu qu'il y ait des informaticiens dedans, alors là, c'est foutu, elle va fonctionner, quoi.
Ouais, c'est foutu, c'est-à-dire on risque faire vraiment tourner une monnaie libre. C'est, tu penses que c'est un danger, ça, ou c'est...
Bah oui, parce que là, c'est un truc non contrôlé, tu sais, ça émerge tout seul, sans autorité centrale, tout ça, je sais pas, c'est un peu chaud. Je pense que ça risque de fonctionner, en fait, et bon, bah... Moi, ça va bien m'aller, hein. J'ai essayé de les rejoindre.
Donc il faudra interdire aux gens de le faire, hein. On va essayer de les empêcher à tout prix. Hein.
Non, parce que là, ça va pas le faire.
Ouais, enfin, ça va pas le faire, on viendra avec des matraques pour empêcher ça. Donc alors, voilà, donc ça, c'est... Donc le dernier jour, donc c'est l'appropriation utilisateur, véritablement, hein, donc moins informatique, hein, mais plus utilisation directe, voilà, comment je me connecte, comment je crée un compte, comment je me connecte à la monnaie. Ouais, une des monnaies, puisqu'il y en aura peut-être plusieurs qui tournent, hein, puisqu'on a vu, on va initialiser au moins une autre, et il y en aura peut-être d'autres.
On verra bien. Il y a toujours, tu sais, des personnes un peu joueuses qui aiment montrer que bah, eux aussi, ils y arrivent, et puis ils ont créé leur monnaie. Et...
Ouais.
Et voilà, je ne serais pas du tout étonné de pas.
Oui, oui, bien sûr. Oui, mais après, le problème... Ah, bah, après, c'est un logiciel libre, c'est ça, que là aussi, parfois, les gens ont du mal à comprendre ça, mais avec un logiciel libre, on peut prendre ben, justement la liberté de s'en servir, quoi. C'est-à-dire, c'est normalement, c'est le principe.
Oui, c'est ça. Mais tu sais qu'on en rigolait, là, il y a une seconde, du fait d'avoir une monnaie de test avec des paramètres bah, voilà, effectifs de production, mais c'est un vrai risque, hein, parce que là, nous, peut-être qu'un jour, quand il y aura une monnaie expérimentale de lancer, bon, on aura vraiment réfléchi au truc, hein, mais là, il est déjà possible de le faire, et le problème, c'est que si la monnaie, elle est créée à un rythme normal, 10% par an, bah, elle risque de prendre de la valeur, et ben, ça... L'inertie, tu sais, bah oui, tu sais très bien, bah, ça, c'est pas négligeable du tout, quoi. Si jamais la monnaie commence à prendre de la valeur, bah, ça va être une valeur effectivement qui risque de prendre en poids et dans le temps.
Ouais, voilà. Et on sait pas où, parce que a priori. C'est pas parce qu'on fait des RML7 à Laval qu'on peut pas aujourd'hui, dès aujourd'hui, utiliser d'unitaire pour lancer une monnaie libre au Burkina Faso ou au Bénin.
Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, hein, j'en sais rien.
Ouais.
Ils sont pas présentés, mais a priori, ils ont toutes les documentations, ils peuvent déjà le faire.
A priori, ils peuvent effectivement déjà le faire. Alors c'est RML7 du 2 au 5 juin. Je crois qu'elles sont bien parties parce que bon, c'est justement Benoît qui s'en occupe et qui il fait très bien les choses. Il y a quand même un site officiel, il y a un programme qui est annoncé. Il fait des annonces maintenant toutes les semaines depuis ce dernier mois, parce qu'on est quand même à deux semaines de l'événement. Hein, faut savoir, on est quand même le 16 mai. Dans deux semaines, on est à deux semaines et demie. Jeudi prochain, on sera pile à deux semaines, donc on est tout près de cet événement phare du développement des monnaies libres. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire ensuite, maintenant, de manière générale sur l'état aujourd'hui de l'économie, en sortant un petit peu du projet, l'état de l'économie, l'état de la guerre des monnaies qui fait toujours rage en ce moment dans le monde. Est-ce que tu suis un peu toujours cette actualité?
Bah, après, j'ai très honnête, hein, non, je suis plus du tout. En fait, le problème, c'est que bah, si on a compris que la monnaie libre, voilà, bah, c'était le truc qu'on voulait développer, bah, si je regarde encore ailleurs, bah, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. Alors, je survole quand même, parce que faut quand même regarder qui il y a derrière nous. Faudrait pas qu'ils viennent avec des fourches nous courir après, mais voilà, je vois que c'est toujours autant la catastrophe, que on a toujours des mecs qui parlent à la radio, à la télévision pour ne rien dire. Enfin, je vois qu'en fait, il n'y a rien qui avance, hein. C'est même de pire en pire. Après, précisément en conflit géopolitique, on va dire non, je suis pas spécialement.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du... T'as suivi, tu as parlé tout à l'heure un petit peu de quelqu'un qui t'avait contacté pour te dire qu'il souhaitait lancer une monnaie libre pour le mouvement Nuit Debout, là.
Oui.
Est-ce que tu suis un peu ce mouvement-là qui s'est un peu lancé en France, et puis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que par chez toi, il y a cette activité qui s'est développée?
Oui, bah c'est ça. Donc moi, j'habite Rennes, et donc il y a eu un, je crois, oui, il y a eu un petit mouvement Nuit Debout. Alors pas forcément de l'ampleur de Paris ni même d'autres villes, mais voilà, il y a des personnes qui se sont réunies. Maintenant, ça va pas forcément très très loin, et puis Bon, en soi, le mouvement, je trouve ça super, hein, parce que voilà, c'est des personnes qui ont manifestement des choses à dire, qui ont manifestement un désaccord vis-à-vis du système actuel. Voilà. Après, voilà, ils pointent pas forcément la monnaie comme source du problème. Je sais qu'il y a par exemple Mathieu Bis qui a intervenu pour faire une présentation comme ça de la monnaie libre en particulier. Mais voilà, le problème monétaire n'est pas forcément soulevé. Et bon, par contre, voilà, ils sont en désaccord, et je pense que voilà, utiliser de monnaie libre, par exemple, pour eux, ce serait vraiment une première étape, parce que leur avis serait pris en compte mécaniquement.
Ouais, tu veux dire
là, voilà, leur avis, on s'en fiche un petit peu, quoi.
Ouais, leur avis économique pèserait directement, alors que évidemment, par les moyens politiques standards tels qu'ils existent aujourd'hui, où on élit des gens. Qui ensuite dirige plutôt que d'élire des lois, et puis sur lesquelles surtout bah, l'aspect monétaire et dépossède le pouvoir économique aussi, eh bien, dans ce système-là, on ne peut pas vraiment justement peser, que ce soit dans les décisions ou dans les changements de direction, puisqu'on est dépossédé des deux pouvoirs d'expression à la fois législatif et économique.
Bon, bah, d'ailleurs, justement, alors ça, pour le coup, je l'ai suivi, c'est que. Donc le Premier ministre, Emmanuel Valls, veut utiliser l'article, le bazooka, le canon 49.3, disant que, bon voilà, en gros, on se fiche complètement de l'avis des parlementaires. Bon bah, ça, typiquement, c'est possible parce que, justement, on n'a pas de poids. On n'a aucun poids. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? C'est leur jeu, c'est leurs règles, et elles sont rendues possibles grâce à la monnaie. Donc, il y a un moment... Il y a un moment, il faut peut-être se rendre compte du problème de la monnaie, quoi. Mais après, on en parle, les monnaies libres, par contre, bah, dans ces mouvements, monnaie libre, de Nuit Debout, je pense que, effectivement, c'est peut-être là qu'on peut commencer à en parler le plus, parce que, voilà, c'est des gens qui sont déjà dans la réflexion, ils voient qu'il y a un problème, ils parlent. Ils parlent entre eux, d'ailleurs, je sais pas si tu as plus d'infos que moi, mais sur leur mode de fonctionnement, mais voilà, il me semble bien qu'ils sont beaucoup dans l'échange.
Oui, ils sont dans l'échange, et puis bon, ils réfléchissent aussi au thème de la Constitution, hein. C'est un thème qui commence à émerger, avec la mise au point d'un processus constituant, d'ailleurs, interne au mouvement, apparemment, hein. Il commence à avoir des schémas de process, hein, qui sont mis en place. Alors, ils sont bourrés de bugs, hein, quand on regarde un peu, mais il n'empêche qu'ils, voilà, c'est en train d'émerger, c'est en train de se mettre en place, et je crois que le problème monétaire aussi est abordé, hein. Tu as parlé de Mathieu Bise, il y a aussi Gérard Fouché qui a fait des présentations. Moi-même, j'ai été sollicité pour avancer quelques éléments sur ce point, mais moi, je préfère pas faire de la communication, je dirais, volontaire sur le sujet. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit les personnes qui ont déjà profondément réfléchi et qui ont étudié la théorie relative à la monnaie, qui la prennent à bras-le-corps eux-mêmes. Je crois qu'une théorie, il n'y a pas de conviction à donner. Soit elle éclaire celui qui la lit, et il est capable de la comprendre et d'en tirer quelque chose, soit elle n'a pas cette possibilité. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison d'essayer de convaincre. Le problème de la conviction, d'essayer de convaincre, c'est que ça ne dit pas si le sujet il est valide ou invalide. Donc on peut convaincre de quelque chose de faux, et mener à des catastrophes. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Moi, je préfère avoir une démarche la plus scientifique possible, qui essaie de réfléchir en profondeur, d'établir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, en fonction de ce qui est connu, et ensuite de passer à l'expérimentation, et de vérifier par l'expérimentation si ça confirme l'intuition et la théorie qu'on a commencé à bâtir, ou si il faut revoir tout en fonction de ce qu'on constate. Et bien, c'est un peu le cas d'ailleurs avec la monnaie dette, on constate que régulièrement, tous les 20 ans, 40 ans, 80 ans, et bien, ça crée des problèmes cycliques économiques et sociaux. On peut considérer que c'est pas dû à la monnaie, mais d'après la théorie relative à la monnaie, c'est bien dû à la monnaie, et il y a tout un faisceau de preuves qui vont dans ce sens-là, et des réseaux de preuves, y compris raisonnés, qu'on peut constater par soi-même, quand on a bien analysé la chose. Voilà. Donc si l'expérience remet en cause ce type de monnaie, c'est bien que ce type de monnaie ne suffit pas. Maintenant, il ne suffit pas de dire quelque chose ne marche pas, non plus, pour dire on a trouvé une solution. Je peux dire ceci ne marche pas comme il faut, mais finalement, c'est quand même malgré tout la seule chose qu'on connaît. de mieux et tout ce qu'on peut connaître qu'on a utilisé avant bah, ne fonctionnait pas mieux, c'était pire. Donc il vaut mieux garder dans ce cas-là ce qu'on a, même si c'est imparfait. Il faut essayer de passer à autre chose que si on a identifié autre chose, ce qui demande un pas de plus à faire. La dénonciation de quelque chose dont il ne marche pas ne suffit pas si on n'a pas de solution meilleure à proposer. Et c'est rarement le passage à un état antérieur qui résout des problèmes nouveaux. Les problèmes nouveaux doivent appeler des solutions nouvelles. C'est ainsi que les véritables progrès se font. C'est rarement des retours en arrière, voire même c'est jamais des retours en arrière.
D'ailleurs, ça me fait penser, même si on arrive à créer une ou plusieurs monnaies libres avec le logiciel unitaire par exemple, ça ne veut pas dire que moi, du jour au lendemain, je vais arrêter complètement d'utiliser les euros. D'ailleurs, c'est pas possible, puisque par exemple, on a un loyer, on a déjà un crédit, puisque voilà, c'est comme ça que fonctionne la monnaie. Et donc, effectivement, on va pas sauter à 100% dans la monnaie libre immédiatement. Ça, moi, je le ferai pas, en tout cas. Je conseille à personne de le faire. Il y a beaucoup de risques, en tout cas.
Oui, il faut le faire de façon, comme toute expérience, il faut le faire de façon progressive. Essayer de le faire en partie, vérifier que ça fonctionne, y aller tranquillement. Et en faisant progressivement, on peut, petit à petit, mais au fil des années, voilà, eh bien, utiliser de plus en plus une monnaie libre, tout comme, eh bien, alors on connaît ça dans l'informatique avec, par exemple, le dual boot hein, entre Linux et puis voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui utilise encore des logiciels non libres ou un système d'exploitation non libre, eh bien, il passe pas à Linux tout de suite parce qu'il a bien envie d'y aller, il comprend l'intérêt, mais il faut apprendre à se familiariser avec le logiciel. Donc au début, en général, on fait ce qu'on appelle un dual boot. On choisit au lancement de sa machine de commencer à tester un peu Linux. On y passe un jour, on y passe deux jours, et puis après on revient à l'autre parce qu'on a encore besoin de ces logiciels d'avant. Et puis petit à petit, on découvre que dans le monde du libre, on retrouve tous les logiciels dont on a besoin petit à petit. Et au fur et à mesure, dans le temps, à un moment donné, on va se dire ben, j'enlève le dual boot et je passe entièrement à Linux. Mais ça se fait.
Et voire même, t'es tellement entièrement Linux, mais des fois, ponctuellement, tu as besoin d'utiliser un logiciel sur Microsoft, et bah tu peux le virtualiser. Voilà, c'est épisodique, t'en as pas besoin tout le temps, la plupart du temps, il est complètement fermé.
Ouais.
Et tu peux encore l'utiliser. C'est pas. L'un n'exclut pas l'autre.
Voilà, l'un n'exclut pas l'autre, c'est plutôt quelque chose de progressif, et on peut comprendre qu'une solution générale est meilleure, mais c'est pas pour autant. Il faut basculer du tout ou rien en un seul coup. On peut aussi le faire de façon progressive. C'est sans doute la voie la plus tranquille, la plus sécurisée, la plus correcte hein, dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Hein, c'est d'y aller de manière progressive en essayant de pas trop forcer. Il faut forcer un peu, bien sûr. Il faut quand même faire des efforts, mais il faut pas non plus tout miser. Comme dit l'autre, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, voilà. C'est un peu la même idée. Il faut garder son activité et essayer de la remplacer progressivement par une autre façon de se comporter, une autre façon de faire. Et donc, passer d'une monnaie à une autre, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Voilà.
Sachant que c'est quand même tout bénéfice d'utiliser une monnaie libre en plus, hein, parce que voilà, c'est une valeur qui n'existait pas avant, et puis d'un coup, elle existe en plus. Voilà, elle s'ajoute. Hein, c'est pas. Prendre une part sur les euros en moins quoi. C'est
voilà.
Tout ça, c'est vraiment du plus.
Oui, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on rencontre quand on commence à parler de ce sujet-là. On a des personnes qui se posent des questions comme si la monnaie qu'on utilisait était d'un coup remplacée par une monnaie libre entièrement. Et alors ils se disent mais alors comment on ferait ceci, comment on ferait cela, etc. Mais non, c'est-à-dire que là ils réfléchissent du tout au rien. Et il ne voit pas qu'une monnaie libre en fait n'enlève rien à l'existant, on n'a pas besoin de supprimer l'existant, on n'a pas besoin de le détruire, on le laisse tel qu'il est, on n'y touche pas. Simplement on ajoute quelque chose de nouveau, et si c'est quelque chose de nouveau bien, est efficace, si ça donne de bons résultats, si on estime que c'est bien, eh bien on l'utilise de plus en plus, et au fil des ans, au fil des années, elle prend une part qui peut être plus importante. Et voilà, donc c'est pas forcément, donc c'est encore une fois, c'est pas le tout ou rien. Je donne aussi comme exemple que bien que GNU Linux ait quand même énormément progressé depuis sa création, eh bien il n'a pas remplacé toute l'informatique. Voilà. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de logiciels qui ne sont pas libres. Voilà. Donc, mais pour autant, là, on peut pas dire que la place du logiciel libre aujourd'hui n'est pas très importante. Elle est devenue très importante, mais elle a pas non plus pris toute la place. Il reste encore un peu de place au logiciel non libre, de moins en moins, faut dire. Mais
ceci dit, on on a aussi des raisons de comprendre pourquoi.
Oui, bien sûr. Alors après, oui, c'est lié à d'autres facteurs, et notamment la monnaie. Hein. Voilà. Ben écoute, alors est-ce que tu as autre chose à dire sur Dunitaire ou sur les RML7 pour conclure cette émission, Cédric, et pour les auditeurs?
Ben écoute, non, je pense qu'on va en parler davantage durant les rencontres. Donc si vous voulez en savoir vraiment plus et vraiment avoir des détails un peu croustillants, des choses un peu vraiment intéressantes, c'est de venir aux rencontres. Hein.
Voilà, venez aux rencontres des Monnaies Libres 7e édition, donc à Laval, du 2 au 5 juin. Le site officiel, c'est Dunitaire, mais .fr cette fois, et pas .org, qui est le site du développement de Dunitaire officiel, mais .fr, c'est la version française, où il y a notamment donc le programme de ces rencontres des Monnaies Libres 7e édition à Laval, du 2 au 5 juin 2016. Merci beaucoup, Cédric, pour cette émission.
Merci à toi.
Merci de nous avoir suivis sur Monnaie Libre, et donc je vous laisse avec notre générique fétiche. No more dreams, ne rêvez plus. Au revoir.
Au revoir.